Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme consacré essentiellement au voyage apostolique que le pape François a effectué samedi 18 mai à Vérone, dans le nord de l'Italie. L'essentiel de ce programme est dédié à cette visite. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne notamment la finalisation du projet de confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La deuxième partie de ce programme concerne la rubrique sur l'invité du jour. Le père Apollinaire Tshibaka Tshikongo nous parle du colloque sur Jérôme le Jeune et l'actualité de son message en ce 21e siècle.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons par la semaine du pape, marquée par la chronique de son voyage à Vérone, présentée par Jacques Ngol.
La semaine du pape a été marquée essentiellement par sa visite pastorale à Vérone, une ville située au nord-est de l'Italie. Parti de Rome à 6h30, le Saint-Père est arrivé à Vérone à 8h. Aussitôt, il a été conduit en la basilique Saint-Zénon où il a eu sa première rencontre avec les prêtres religieux et religieuses de ce diocèse. Dans son discours, François a insisté sur l'appel de Dieu à accueillir et la mission à accomplir avec audace dans un monde confronté aux tempêtes causées par l'avarice, la cupidité, la poursuite effrénée de l'autosatisfaction et élevée dans une culture individualiste, indifférente et violente. Le pape s'est également attardé sur le sacrement de réconciliation, invitant les prêtres à tout pardonner. Et même lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ce que dit le pénitent, il faut continuer car le Seigneur a compris. Aussitôt après la rencontre avec le clergé local, le pape a rencontré des jeunes et des enfants accompagnés de leurs parents et catéchistes. La rencontre était organisée dans une dynamique d'échange. Trois questions ont été posées par des enfants, notamment comment faire pour être disciple, comment être artisan de paix et comment garder sa foi au milieu des difficultés. En réponse à ces différentes questions, le Saint-Père a invité les enfants à savoir écouter la voix du Seigneur en étant attentif aux parents, à cultiver l'amour partout dans leur milieu de vie et à aller à contre-courant des réalités actuelles pour être des vrais disciples artisans de paix en vivant leur foi. La troisième articulation du programme du Saint-Père était portée sur la grande conférence sur la paix qu'il a présidée dans les arènes emblématiques de la ville de Vérone. Parole à notre envoyé spécial Alexandra Sirgan pour des détails.
12 500 personnes étaient réunies ce samedi matin dans l'amphithéâtre romain pour assister à cette grande conférence portant sur la paix et organisée sous forme de dialogue. En effet, des semaines avant l'arrivée du pape à Vérone, représentants ecclésiaux et membres de la société civile italienne ont travaillé sur 5 thématiques, le désarmement, l'écologie, l'économie, la migration, la démocratie et les droits. C'est à partir de ces thèmes que 5 questions ont été choisies et posées au pape. Parmi les temps forts, la prise de parole commune d'un Israélien et d'un Palestinien, tous deux meurtris par la guerre en Terre Sainte. Nous sommes des entrepreneurs et nous croyons que la paix est la chose la plus importante que nous puissions réaliser, ont assuré les deux hommes main dans la main. Le souverain pontife les a ensuite pris dans ses bras, les embrassant chacun. Tout au long de la conférence, le pape a exhorté à affronter les conflits et à ne pas sombrer dans l'individualisme.
Il futur de l'humanité non est solo nelle mani des grands leaders, delle grandi potenze e delle élites, et soprattutto nelle mani dei popoli.
L'avenir de l'humanité n'est pas seulement entre les mains des grands dirigeants, il est avant tout entre les mains des peuples, a-t-il conclu.
Merci Alexandra. Le pape s'est également rendu à la maison d'arrêt de Montorio où il a rencontré les agents de la police pénitentiaire, des détenus et des bénévoles. Pour François, la prison est un lieu de grande humanité, une humanité éprouvée, parfois fatiguée par des difficultés, la culpabilité, les jugements, les incompréhensions, la souffrance, mais en même temps pleine de force, de désir de pardon, de désir de rédemption. Le Saint-Père a clôturé les activités marquant sa visite à Vérone par une messe qu'il a présidée au stade de Bentegodi. Dans son homélie, François a abordé les termes tels que le rêve, les visions, l'espérance et la soif. Évoquant les premiers aspects, le Saint-Père a rappelé que les personnes âgées, en voyant les jeunes, rêvent. Et ensuite, les jeunes peuvent prendre ces rêves de leurs grands-parents et les apporter à la réalisation avec leur énergie fraîche et créative. François a invité à la vigilance en nous rappelant que nous sommes sauvés en espérance. Tant de peuples opprimés par la guerre et ses conséquences s'est-il attristé, appelant à être signe d'espérance, une espérance qui se transforme en mouvement civil et qui, ici à Vérone, a trouvé son expression dans le parcours appelé Arène de la paix. Vendredi, à la veille de son voyage, le pape a reçu les 60 participants à la plénière de la commission pontificale d'archéologie sacrée en salle du consistoire du palais apostolique. Le Saint-Père les a encouragés à accroître le rayonnement des catacombes chrétiennes dont l'Italie regorge. Comme lieu d'attente de la résurrection, elles sont l'horizon d'espérance des premiers chrétiens, a souligné l'évêque de Rome qui encourage chacun à se rendre dans l'une d'entre elles en vue de l'année sainte en 2025. Jeudi, François a accordé une audience aux participants de la rencontre organisée par les Académies pontificales des sciences et des sciences sociales autour du thème de la crise climatique à la résilience climatique. Le pape les a, dans son discours, appelé à être attentif aux cris de la terre, à écouter l'appel des pauvres et à développer une nouvelle architecture financière qui réponde aux besoins du sud mondial et des États insulaires gravement touchés par des catastrophes climatiques.
Après la semaine du pape, l'actualité de l'Église nous conduit au Congo où Séverin Moussavou nous fait part de l'annonce de la prochaine tenue des États généraux dans l'archidiocèse de Pointe-Noire.
Après une longue marche, les États généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire seront enfin une réalité. Un moment de grâce, toujours souhaité depuis fort longtemps par les catholiques de cet archidiocèse de s'asseoir autour d'une table ronde en Église famille, en toute confiance et dans la cohésion de cœur, afin de faire le point sur les maux qui minent l'église particulière de Pointe-Noire. L'abbé Jean-Gilbert Mavungu, président du secrétariat général de l'Organisation des États généraux, nous le précise.
Pour l'archidiocèse de Pointe-Noire, sommes dans la dynamique, c'est vrai, des États généraux lancés par notre nouvel archevêque. Si dans certaines sociétés privées et même étatiques, les personnes ont peur des États généraux, qu'elles redoutent même, cependant pour nous, qui visons à l'efficacité, c'est une instance dont on n'a rien à craindre, mais plutôt à interpréter comme un kairos, c'est-à-dire un temps favorable. En effet, loin d'être une inquisition, c'est un véritable kairos pour nous que de nous asseoir autour d'une table ronde en église famille afin d'évaluer où est-ce que nous sommes arrivés. Qu'est-ce qui s'est fait et se fait maintenant? Comment cela s'est-il fait ou continue à se faire? Qu'est-ce qui mérite d'être réalisé à nouveau frais pour plus d'efficacité, de rendement et même de rentabilité à tout point de vue? Car l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite.
Les États généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire débuteront le 4 juin sous la présidence de Mgr Abel Lilouala, archevêque de Pointe-Noire, Séverin Moussavou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Commençons l'actualité politique et sociale sur le continent africain avec le Soudan. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont indiqué vendredi soir qu'ils étaient prêts à ouvrir des passages sûrs aux civils souhaitant fuir El-Fasher au Darfour en proie à des combats plus d'un an après le début de la guerre dans ce pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont finalisé à Niamey un projet de texte créant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel que les chefs d'État de ces trois pays devraient adopter ces prochaines semaines. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de manifestants soutenant le régime de transition se sont rassemblés vendredi soir dans le centre de la capitale Ouagadougou après des tirs près de la présidence. Au rond-point des Nations Unies au centre de Ouagadougou, les manifestants appelaient à une mobilisation pour protéger le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ce rassemblement fait suite à des tirs entendus en fin d'après-midi aux abords de la présidence. Au Mali, la mission de formation militaire de l'Union européenne, dont les 27 ont décidé le 8 mai de ne pas renouveler le mandat, a officialisé son départ après 11 années dans ce pays. l'European Union Training Mission avait été déployée en 2013 pour entraîner et conseiller les forces de ce pays confrontées depuis 2012 à la propagation du djihadisme. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu vendredi à Accra où son homologue ghanéen lui a demandé de jouer un rôle dans la résolution de la crise régionale avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Bassirou Diomaye Faye a effectué sa première visite au Ghana au lendemain de sa visite au Nigeria. Il a évoqué avec Nana Akufo-Addo notamment le maintien du Niger, du Mali et du Burkina Faso au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le père jésuite Fulgence Ntieni nous introduit à la méditation avec les lectures du dimanche de Pentecôte.
Le message de l'évangile d'aujourd'hui s'insère dans la relation entre la Sainte Trinité et nous, les hommes et les femmes. Si pour Noël, tout est parti de Dieu le Père qui a envoyé l'Esprit couvrir Marie de son ombre pour qu'ensuite le Fils de Dieu vienne en notre nature et en notre monde pour nous sauver, pour l'évangile de ce dimanche de Pentecôte, tout part du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui va vers le Père. Il promet que d'auprès du Père, il nous enverra l'Esprit Saint pour nous donner la force de marcher sur le chemin du salut. L'initiative est de Jésus qui a habité parmi nous. Il a mangé et bu avec nous. Il nous a prêché. Nous l'avons arrêté et tué. Mais il est ressuscité des morts 3 jours après. Notre contact avec le Seigneur nous ouvre la voie de recevoir le grand don de l'Esprit Saint qui vient du Père. Le Seigneur nous a instruits, il nous a appris le chemin de l'amour des dieux et du prochain. Aujourd'hui, il nous obtient du Père le Saint-Esprit qui nous donne la force de vivre l'amour du prochain. L'Esprit Saint vient nous libérer de la peur de vivre en bon chrétien dans notre société, dans notre milieu professionnel, au milieu de nos amis ou dans notre famille. L'Esprit Saint vient aussi nous donner l'intelligence de la parole des dieux à vivre et à partager aux autres. Il ne nous suffit pas de nous efforcer de vivre selon la parole des dieux. Il nous faut aussi parler de la parole des dieux aux autres. C'est ce que font les apôtres dans la première lecture. Ils parlent un langage que chacun comprend. Quand quelqu'un te veut du bien, même si vous ne parlez pas la même langue, vous le comprenez. Vouloir du bien à nos frères et à nos sœurs constitue tout un langage qu'ils peuvent comprendre. Quand l'Esprit Saint nous conduit, quand l'amour du prochain nous guide, nos paroles, nos gestes, notre attitude, notre manière d'être, tout dit cet amour et se fait comprendre. Marchons sous la conduite de l'Esprit, nous exhorte Saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul nous fait 2 listes qui sont 2 bonnes clés du discernement. Ces listes nous permettent de discerner quel esprit nous guide. Dis-moi sur laquelle de ces 2 listes tu te retrouves, et je te dirai qui est ton guide, l'Esprit mondain ou l'Esprit Saint. Pendant 40 jours, le Seigneur nous a aidés à élaborer un projet pascal pour notre vie, en prenant des résolutions qui témoignent de la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Aujourd'hui, il nous envoie tout ce qu'il nous faut pour réaliser ce projet. L'Esprit Saint est plus que le financement, plus que l'aptitude à faire le bien, à aimer le prochain. Il est le Dieu lui-même, qui vient vivre en nous pour prendre le commandement de notre vie, de nos affaires, de nos relations, bref, de tout pour le conduire selon la volonté des dieux. Le Seigneur ressuscité a planté en nous la semence de la victoire et du bien. Aujourd'hui, il envoie sur nous la pluie de l'Esprit Saint pour faire croître et porter fruit sa semence. Laissons-nous conduire par l'Esprit, c'est-à-dire par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bonne fête de Pentecôte.
Rappelons que la messe de la Pentecôte, présidée par le pape François le dimanche 19 mai de 9h55 à 11h20 heure de Rome, en la basilique Saint-Pierre, sera retransmise en langue française pour l'Afrique de l'Ouest sur les ondes courtes 17 555 kHz.
Invité du jour.
Jérôme le Jeune et les défis de la bioéthique au XXIe siècle, c'est le thème du colloque organisé les 17 et 18 mai à Rome. Ce congrès avait pour objectif analyser les principaux défis bioéthiques contemporains à la lumière de la pensée et de l'héritage de ce grand humaniste français. Quelle dimension africaine apportait à cette rencontre? Le père Apollinaire Tshibaka Tshikongo, prêtre du diocèse de Mbujimayi en République démocratique du Congo, professeur de bioéthique, recteur de l'université officielle de Mbujimayi et membre de l'Académie pontificale pour la vie, nous en parle.
Jérôme Lejeune est un grand savant, mais aussi un grand croyant, un grand chrétien. Ce qu'on peut retenir comme grande leçon de sa vie, c'est le respect profond pour la vie humaine, à toutes les étapes de son évolution, de la conception jusqu'à la mort. Je crois que ce grand message est très important en ce moment où l'homme, grâce au développement de la science et de la technologie, a acquis des pouvoirs écrasants sur la vie humaine. Et se souvenir que la vie, elle est sacrée. Et que quel que soit nos pouvoirs, le pouvoir que l'homme acquiert par la science et la technologie, la vie reste au-dessus de ses décisions, reste au-dessus de sa liberté, reste au-dessus de tout ce dont il peut en penser. Je crois que c'est le grand message, le grand héritage, le grand legs que nous laisse Jérôme Lejeune et qui doit interpeller notre Afrique, d'autant plus que ce message rejoint notre culture de la vie dans ce qu'elle a de plus profond.
Cette rencontre s'est tenue à la veille de la Pentecôte et au moment où l'Église s'apprête à célébrer la première journée mondiale des enfants. Nous avons demandé au père Tshibaka s'il s'agissait d'une simple coïncidence. Voici ce qu'il nous a répondu.
Bon, une coïncidence providentielle parce que d'abord là ça fait 30 ans depuis qu'il est décédé ou qu'il est né au ciel. Ça fait aussi un anniversaire de la fondation de l'Académie pontificale pour la vie. Et donc, tous ces événements qui se ressemblent, c'est la deuxième fois qu'on le fait. L'année passée, nous avions tenu le premier colloque ici à Rome au mois de mai. Et cette année, on est encore revenu de tous les 5 continents et avec plus d'une vingtaine d'universités, catholiques et non catholiques, qui sont venues réfléchir sur son legs, sur son héritage. Et Dieu merci que ce soit à la veille de Pentecôte et à la veille de la première journée de l'enfant. C'est pour nous rappeler, en fait, qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'être au service de la vie. Et la vocation de l'homme, c'est celle-là, être au service de la vie. Et c'est ce qu'a été Jérôme Lejeune pendant toute sa vie. Il est à la base de découvertes qui ont bouleversé la science, notamment dans le domaine de la génétique. Et il était conscient que ces découvertes allaient aussi ouvrir la porte à des méfaits. En fait, c'est comme quelqu'un qui a fait un grand travail de recherche et qui voit comment ces découvertes, au lieu d'être mises au service de la vie, permettent le diagnostic prénatal qui, malheureusement, dans beaucoup de cas, aboutit à l'avortement et donc à l'assassinat de l'enfant innocent. Et lui, il a dû même affronter le monde scientifique pour des raisons de conviction morale, afin de s'opposer à l'utilisation abusive de la science. Parce que la médecine, elle n'est pas faite pour tuer, elle est faite pour guérir. Donc l'ennemi de la médecine, ce n'est pas l'enfant malade, mais plutôt sa maladie. Et donc, utiliser les résultats de travail, d'un travail scientifique sérieux, non pas pour combattre la maladie, mais pour combattre ceux qui sont affectés par cette maladie-là, je crois que c'est l'un des drames qu'il a vécu dans sa vie. Et il s'est battu jusqu'au bout pour que les scientifiques aient cette conscience-là. Leur travail est un travail au service de la vie, à commencer par les plus petits. Et l'une de ses phrases, c'est que on ne peut juger d'une civilisation qu'à sa capacité à traiter les plus malades, les plus faibles de ses membres.
Le père Apollinaire Tshibaka Tshikongo, prêtre du diocèse de Mbujimayi en République démocratique du Congo, professeur de bioéthique, recteur de l'université officielle de Mbujimayi et membre de l'Académie pontificale pour la vie, dans un entretien avec Vatican News.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jésus Christus.